Bonjour et bienvenue, ici Claire Martin.
Et Nicolas Moreau, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous propose un tour d'horizon d'une fournée de lancement du nouveau matériel Apple aux outils pour développeurs, en passant par une grosse vague d'applications IA. Et notre angle du jour, on a sélectionné les produits qui répondent à un vrai problème utilisateur, avec des fonctionnalités concrètes, des prix ou des disponibilités claires, et on regarde ce qui tient vraiment de la promesse du fabricant.
Exactement, et on le dit tout de suite, ce que les créateurs racontent, ce sont des affirmations, pas des résultats vérifiés. On vous dit ce qui est revendiqué, ce qui est concret et ce qui reste ouvert. Alors commençons par le matériel parce que c'est la plateforme sur laquelle tout le reste tourne. Apple a annoncé l'iPhone Duo, son premier iPhone pliable.
Un moment attendu, effectivement. Les chiffres donnés sont intéressants. L'écran intérieur serait 50% plus grand que celui de l'iPhone 18 Pro Max. Et l'écran extérieur couvrirait environ 90% de la surface de l'écran du 18 Pro. Ce qui veut dire que fermé, ce n'est pas une petite bande. C'est un vrai téléphone utilisable.
C'est le point qui me semble le plus important dans cette annonce. Beaucoup de pliables ont un écran externe à moitié utile. Si Apple tient vraiment ses 90%, l'expérience fermée ne serait pas un compromis. Mais attention, ce sont des chiffres d'annonce, on n'a pas l'appareil en main.
Et ça soulève les questions qu'on ne peut pas encore trancher. L'autonomie, la durabilité de la charnière, le prix. L'annonce ne dit rien de tout ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un écran plus grand change les usages. Plus de place pour lire, pour le multimédia, potentiellement pour deux apps côte à côte, même si rien n'est confirmé sur ce point précis.
Et dans la même lancée côté audio, les AirPods 5. Là encore, des promesses chiffrées. Une réduction de bruit active 1,5 fois supérieure, et ça dans un design à oreille ouverte. Ce qui n'est pas évident, puisque l'oreille ouverte laisse entrer le bruit par nature.
Siri conversationnel arrive aussi dessus, avec la traduction en direct, et détails pratiques qui tranchent. Disponibilité annoncée le 18 septembre 2026. Pas de prix précis dans ce qu'on sait, ni de confirmation sur l'autonomie, qui est toujours la question critique sur des écouteurs avec beaucoup de traitements audio embarqués.
Voilà, retenez donc, un pliable avec un écran externe presque complet, des AirPods avec une ANC boostée en format ouvert. À surveiller, l'adoption réelle et l'autonomie. Parce qu'un pliable et des écouteurs high-tech, ça se juge à l'usage quotidien, pas sur le papier. Et justement, ces machines, c'est la porte d'entrée de tout ce qui suit. Notamment des apps qui exploitent le matériel au maximum.
Passons justement à la vague IA créative et média, et on commence avec un lancement qui fait parler, Suno V6. Le point le plus notable, c'est le partenariat. Les modèles ont été faits avec Warner, BMG et Believe. Ce n'est pas anodin, ça change complètement la posture de l'entreprise par rapport aux litiges passés du secteur.
Oui, avoir les majors du disque dans la boucle d'entraînement ou de licence, selon ce qu'on sait, c'est une réponse au gros point d'interrogation juridique qui pesait sur la musique générée. Concrètement, Suno V6 propose trois versions, V6, V6 Wild et V6 Mini. Donc a priori, un modèle standard, un plus aventureux et un plus léger, probablement plus rapide ou moins cher. Mais ça, c'est mon interprétation des noms, pas une information confirmée.
Et côté édition, il y a du concret. On peut éditer par section et par parole. Ça, c'est une vraie différence d'usage. Avant, sur les générateurs musicaux, tu avais en gros une piste finie et si un couplet ne te plaisait pas, tu relançais tout. Là, tu peux retravailler un pont ou réécrire une ligne de texte chantée.
Pour qui c'est fait, les créateurs de contenu qui ont besoin de musique sur mesure, les artistes qui veulent un brouillon rapide, les développeurs de jeux qui ont besoin de variations. La limite, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur la qualité réelle, sur la manière dont ces licences avec les labels influencent le son, ni sur le prix des différentes versions.
Dans le même espace créatif, il y a Whip qui prend le problème dans l'autre sens. Plutôt que de générer du contenu, Whip est un feed d'expérience interactive dans le style YouTube. Mais où ce que tu regardes, tu peux le jouer directement dans le navigateur. Jeu, 3D, art génératif.
L'idée est séduisante parce que le format vidéo est passif par nature. Ici, tu scrolles un feed, tu tombes sur un petit jeu ou une expérience 3D et tu cliques et tu joues sans installation. Et il y a des canaux pour les créateurs, donc un modèle de distribution. La question ouverte, c'est la découverte. Est-ce que le feed de ce genre de contenu garde l'attention comme la vidéo? C'est une vraie interrogation, il n'y a pas de réponse dans l'annonce.
Et toujours dans l'IA appliquée, VisoNow qui attaque un domaine très technique, la vision par ordinateur. Leur promesse, tu décris ce que tu veux surveiller avec un prompt et la plateforme de vision est générée avec des tableaux de bord en direct.
Ce qui est frappant dans le positionnement, c'est le sans. Sans entraînement de modèle, sans annotation. Normalement, un projet de vision par ordinateur, c'est des semaines de collecte et de marquage d'images avant la première détection. Si le prompt remplace vraiment ça, ça ouvre la vision par ordinateur à des gens qui n'ont pas d'équipe de machine learning.
Mais c'est aussi la limite de ce qu'on peut dire. La fiabilité sur des cas réels, les faux positifs, ce qu'il se passe quand les conditions d'éclairage changent, tout ça, ce sont des questions classiques du domaine et l'annonce n'y répond pas. à considérer comme une promesse de simplification, avec un travail de vérification à faire de votre côté si vous avez un cas d'usage sérieux.
Et le dernier de ce bloc créatif, Mode Inspect, qui s'adresse plutôt à ceux qui construisent des produits. C'est un canvas de design alimenté par l'IA, mais posé directement sur le code réel, le code base, pas sur des maquettes abstraites.
Et ça, c'est le point différenciant. Les composants et les tokens utilisés sont ceux de votre projet, vos vrais composants. Et à la fin, les changements sont publiables comme pull request type safe. Donc le designer ou le produit peut esquisser une interface, et ça sort en code qui respecte le système de design et passe la vérification de type.
La promesse, c'est de raccourcir le chemin entre l'idée de design et le code mergé. Les questions ouvertes. Comment ça gère les composants mal documentés, les cas limites, la dette technique? Rien là-dessus pour l'instant. Mais dans l'ensemble, ce bloc créatif montre une tendance claire. L'IA qui ne se contente plus de générer du contenu brut, mais qui s'insère dans des flux de travail existants, avec des livrables concrets.
Et justement, cette insertion dans les flux de travail, on va la retrouver dans les apps du quotidien. Commençons par une qui a un positionnement très clair sur la vie privée, Gojo, sur Mac. C'est de la dictée locale, on-device, donc l'audio ne sort pas de la machine.
Et Gojo, ce n'est pas que la dictée. C'est un ensemble d'utilitaires Mac logés dans le notch, presse-papier, gestion des fenêtres, fichiers, médias. L'idée, c'est d'avoir un centre de contrôle dans ce petit espace en haut de l'écran. Côté prix, c'est limpide. 3 jours d'essai, puis une licence à vie à 9,99$.
Une licence à vie à moins de 10$, c'est un pari assumé contre le modèle d'abonnement. Pour qui? Les gens qui dictent beaucoup et ne veulent pas que leur voix parte dans le cloud, et ceux qui veulent des utilitaires rapides sans multiplier les apps. Les limites, on ne sait pas comment les mises à jour futures seront financées avec un prix unique, et la qualité de la dictée on-device dépendra de votre matériel.
Dans le même esprit léger et local, mais beaucoup plus fun, Vibeyes. Là, on est dans le pur cosmétique. Une mascotte animée dans la barre de menu macOS qui suit votre curseur des yeux et cligne des paupières.
On peut sourire, mais il y a une vraie logique commerciale. 11 mascottes gratuites, et si vous voulez la vôtre, une image personnalisée, c'est 14,99$, plus votre propre clé IA. Donc un petit produit monofonction, un prix unique, et l'utilisateur apporte sa clé d'API, ce qui déplace le coût d'infrastructure.
Comparé à Gojo, c'est l'inverse du rapport fonctionnalité-prix. Gojo est dense en utilitaire à 9,99$. Vibeyes vend une émotion. Deux modèles différents pour des produits qui vivent au même endroit, la barre de menu du Mac.
Et le même endroit, le Mac, on y reste avec un produit qui répond à un problème que beaucoup connaissent, les notes de réunion. SpeechMark prend des notes de réunion sur Mac, 100% on-device, et sans bot, sans compte.
Le sans bot, c'est important. Si vous avez déjà été en réunion avec un assistant d'enregistrement qui rejoint l'appel, vous savez que ça change la dynamique, les gens se méfient. Là, c'est local, et détail intéressant, SpeechMark retient l'audio original, donc vous pouvez revenir à la source, pas juste à un résumé.
Le prix est clair aussi, 49$ en offre de lancement, puis 79$. Donc encore un achat unique face aux abonnements mensuels des gros acteurs des notes de réunion. La contrepartie de tout local, c'est que ça dépend de la puissance de votre Mac pour la transcription, et il n'y a pas de synchronisation multi-appareil évoquée.
Et toujours sur le thème du local et de la maîtrise de ces données, Wellfolio, pour les finances personnelles, open source, local first. Vos investissements, votre patrimoine, vos dépenses restent chez vous.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas au local pur et dur. Il y a un module Connect qui ajoute la synchronisation avec les brokers et elle est chiffrée. C'est le compromis que beaucoup de solutions locales doivent faire. Le local, c'est bien, mais si tu dois saisir chaque transaction à la main, personne ne le fait. Connect est la réponse à ce problème, avec le chiffrement comme garantie.
Le fait que ce soit open source change la nature de la confiance. Vous pouvez vérifier ce que fait le code, ce qui compte énormément quand on parle d'argent. Les questions ouvertes, le nombre de brokers supportés, la fiabilité de la synchronisation, mais sur le papier, c'est une alternative sérieuse aux agrégateurs cloud.
Ce qu'on voit dans ce bloc, clair, c'est une vraie cohérence. Dictée locale, note locale, finance locale, tous en achat unique ou en open source. C'est presque un contre-mouvement face au tout abonnement, tout cloud.
Et cet contre-mouvement, on va le retrouver chez les développeurs, qui sont peut-être les plus avancés sur cette logique. Alors là, il y a du monde, et on va prendre le temps. On commence avec Hob, qui attaque un problème très actuel. Travailler avec des agents de code. Ce n'est plus lancer une commande dans un terminal, c'est gérer plusieurs agents en parallèle.
Exactement. Hob est un workspace professionnel pour agents de code, compatible avec Cloud Code, Codex et OpenCode. Il est local et il apporte les structures qu'un développeur utilise déjà. Des work trees pour isoler les tâches en cours, des pull requests et un accès distant chiffré pour lancer ou suivre ses agents quand on n'est pas devant la machine.
Ce qui est intéressant, c'est l'analogie avec l'outillage Git classique. Les work trees, ça existe dans Git depuis longtemps, Mais là, elles sont réutilisées comme des bacs de travail pour des agents qui tournent en parallèle sans se marcher dessus. Le problème utilisateur est clair. J'ai 3 agents sur 3 tâches. Je ne veux pas qu'ils écrasent le travail des uns et des autres.
Hobb répond à ça avec de l'existant éprouvé plutôt qu'en réinventant un système. Les questions ouvertes, la supervision, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des agents en parallèle sans relecture? Ça, c'est le débat de fond du domaine et l'outil seul n'y répond pas.
Et à côté de Hobb, pour la documentation, il y a Thousand. Le principe, les docs en JIT, en Markdown, avec un accès par dossier, et surtout, les humains et les agents lisent les mêmes fichiers, avec des permissions par lecteur.
C'est une idée simple, mais qui a des implications. Aujourd'hui, les agents de code ont besoin de documentation à jour, et souvent, les docs vivent dans un wiki séparé, mal synchronisé. Si humains et agents lisent les mêmes fichiers Markdown dans le dépôt, avec des permissions qui contrôlent qui accède à quoi, la documentation devient une seule source de vérité.
La question qu'on peut se poser, comment les permissions par dossier se comportent-elles en pratique avec des agents qui ont besoin d'un contexte large? Mais l'intention, aligner humains et machines sur les mêmes documents, est très lisible.
Et pour tester ce qu'on construit, FreeScan propose une entrée gratuite, une audite d'URL, pas d'un site entier, d'une URL qui couvre SEO, AEO, sécurité et accessibilité, et qui donne des preuves et des correctifs.
Le mot-clé, c'est preuve. Beaucoup d'outils d'audit sortent une note et un conseil vague. Là, la promesse est d'avoir l'évidence de ce qui cloche et le correctif proposé. La version pro ajoute les audits site-wide, donc tout le site, et MCP, ce qui suggère une intégration dans les flux d'agents.
Le positionnement gratuit sur une URL, c'est un modèle d'acquisition classique et honnête. Tu testes sur une page, tu vois la qualité, puis tu passes au pro si tu gères un site entier. Ce qu'on ne sait pas, c'est la profondeur réelle de chaque audit sur ces 4 axes, qui sont des domaines très différents.
Et dans les outils qui automatisent du travail d'équipe, Tipwise Nova s'attaque au support client. C'est un opérateur IA qui crée et améliore des agents de support sans développeur. Le point fort de leur approche, tu peux tester sur tes tickets passés avant de déployer.
Tester sur l'historique, c'est le meilleur moyen de juger ce genre d'outils, parce que tu as les vraies réponses humaines pour comparer. Et l'offre d'entrée est claire, 1000 résolutions gratuites. Le sans développeur, c'est la promesse d'ouvrir ça aux responsables support eux-mêmes. Les limites, la qualité sur des tickets ambigus ou émotionnellement chargés, on n'en sait rien.
Du support client aux événements. Live Captions by Subanana résout un autre problème très concret, les sous-titres en direct pour un public. Le mécanisme est malin. Un QR code, le public scanne et lit les sous-titres sur son propre téléphone, en multilingue, jusqu'à 5 langues.
L'usage du smartphone du spectateur, c'est ce qui rend le truc viable. Pas de matériel à louer, pas d'écran géant à installer. Et il y a une couche pour OBS et VMix, donc pour les streamers et les régisseurs, ça s'intègre dans la régie. La question pratique, la latence entre la parole et les sous-titres, et la fiabilité dans une salle bruyante. Ça, l'annonce ne le précise pas.
Et toujours dans l'analyse de données, mais cette fois financière, Athénic AI propose de l'analyse d'action avec plus de 90 ensembles de données institutionnelles sous licence à $50,000. C'est un détail qui dit beaucoup. Ces datasets institutionnels ont un coût réel. Ce n'est pas du scrapping.
Et l'IA permet le screening et la recherche en langage naturel. Donc au lieu de construire des filtres complexes, tu poses ta question en français ou en anglais. Pour qui? Les analystes individuels ou petites équipes qui n'auraient jamais pu s'offrir ces données. La limite, la qualité d'une analyse en langage naturel dépend de la qualité des données et de l'interprétation du modèle, et il faut garder son jugement d'analyste.
Du côté des modèles eux-mêmes maintenant, Desert Antlabs prend le chemin inverse des gros modèles. Des modèles IA petits, device, pour la voix, le texte et la vision, fournis via un SDK.
Et leur offre est précise, gratuit jusqu'à 100 000 appareils actifs mensuels. C'est une barre très haute pour un produit gratuit, ça cible clairement les applications grand public qui montent en charge. L'intérêt de l'on-device, la latence, la vie privée, et pas de coût de serveur par requête pour le développeur.
C'est cohérent avec ce qu'on a vu toute l'émission, cette bascule locale. Et le dernier du jour, OpenObserve, avec son AI Observability, qui s'attaque au problème du suivi. Quand tu mets des agents et des LM en production, comment tu débugs?
Leur réponse, des traces hôtel des agents et des LM, avec le coût par session, la détection de boucles et des évaluations en ligne. Le tout à côté des logs et de l'infrastructure existante. La détection de boucles, c'est très parlant. Un agent qui tourne en rond, ça coûte des tokens et ça ne fait rien. Le coût par session, c'est ce que chaque équipe veut savoir et ne sait souvent pas.
Et le fait d'avoir ça dans le même outil que les logs et l'infra, c'est le point différenciant. Pas un tableau de bord séparé de plus. Les questions ouvertes. La précision des coûts et des évals en conditions réelles. Mais pour les équipes qui passent les agents en production, c'est une brique qui manquait.
Et un dernier détail très concret pour finir, Drive, une app iPhone qui transforme le téléphone en enregistreur de télémétrie, GeForce, freinage, et qui alerte sur les caméras LPR en s'appuyant sur OpenStreetMap.
Deux choses à retenir là-dessus. La télémétrie intéresse les passionnés de conduite et l'alerte aux caméras LPR, donc les caméras de reconnaissance de plaques. C'est un sujet de vie privée qui parle à beaucoup. S'appuyer sur OpenStreetMap plutôt que sur une base propriétaire, c'est le modèle contributif. Les limites, la fraîcheur des données de caméra dépendra de la communauté.
Voilà Claire, ce qui boucle le tour. Si on résume ce fil rouge de l'émission, du matériel qui sert de plateforme, l'IA qui s'insère dans des flux de travail réels, plutôt que de générer dans le vide, une forte poussée du local et de longs devices avec des modèles de prix en achat unique ou en open source, et des outils pour développeurs qui professionnalisent le travail avec les agents.
Avec, partout, le même avertissement, ce sont des lancements, les chiffres et les promesses viennent des fabricants. Les vraies réponses, autonomie, fiabilité, adoption, viendront de l'usage. Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt.
À bientôt, prenez soin de vous.